Le Tour de France avec Le Parisien aujourd'hui en France et RMC. RMC, 14h-18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, bienvenue sur la route du Tour de France. C'est la 17e étape aujourd'hui de la Grande Boucle 2018. 17e étape et étape sans doute clé pour l'établissement du classement général dans 4 jours à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Une étape courte, 65 km seulement. Oui, mais alors une étape dantesque avec 38 km d'ascension. Ça va monter, ça va descendre, ça va monter et redescendre pour ensuite arriver au sommet du col du Porté, qui est un col inédit sur les routes du Tour de France et qui a qui apparaît comme l'un des cols les plus difficiles jamais empruntés par le Tour de France, en tous les cas dans les Pyrénées. On va vous faire vivre cette étape qui débutera dans un petit peu plus d'une heure maintenant à 15h15 avec un format inédit. On va en parler évidemment avec toute l'équipe, à commencer par Cyril Guimard, notre druide, dit la druidasse pour les intimes. Bonjour Cyril.
Oui, bonjour.
Tu es prêt, tu t'es échauffé pour cette étape particulière?
Ah ben, je suis chaud depuis ce matin, hein. Je m'entraîne depuis ce matin pour cette étape.
Bon, j'espère que tu vas pas avoir un coup de fringale et que tout va aller jusqu'en haut. Frédéric Adam est également là. Il va être au chômage, il n'ira pas de top course pendant une heure. Ça va nous faire des vacances, mais du coup, on va l'interroger sur d'autres trucs. Comment ça va, mon Fredo?
Ça va, je suis même pas sûr qu'il y ait le moindre top course sur cette étape, tant elle peut s'annoncer agitée avec des coureurs un peu partout. Ce sera peut-être la foire d'empoigne d'entrée de jeu. On aura l'occasion d'en reparler, mais je sens que ce sera une journée sans, justement, niveau top course.
Ah, il va falloir faire des points parce qu'il risque d'y en avoir un peu disséminé aux quatre coins de la montagne cet après-midi. Ça va pas durer très longtemps, mais ça va être très intense. Jérôme Coppel est là dès le départ de l'étape aujourd'hui. Bah oui, celle-là, il fallait pas la louper, Jérôme.
Hein. Ah non, là, faut pas rater le départ, hein, sinon on va rater une grande partie de ce qui va se passer.
D'ailleurs, la plupart des suiveurs ne sont pas aujourd'hui au village départ, ni sur la ligne de départ de cette étape, parce que le temps ne permet pas de relier le départ à l'arrivée. Donc tout le monde est déjà sur la ligne d'arrivée, sauf évidemment les motards, à commencer par les nôtres, Marco et Pierre-Yves Leroux, qui sont sur la ligne de départ. Alors l'avion ne tourne pas encore au-dessus de leur tête, mais ils sont en ligne avec nous pour nous raconter les prémices de cette étape. Ils vont être avec nous dans quelques instants, nous dit-on. On verra ça dans quelques minutes. Georges Quirino également là. D'habitude, il est au départ aussi pour recueillir quelques interviews. Mais là, aujourd'hui, non,
d'habitude,
pas pour
il dort dans la voiture à cette heure-là.
Ah oui, ça, on a vu ça hier sur le hashtag RMC Live. Ça va, mon Georges?
Ça va, très bien. Bon. J'espère que ce sera comme en 2011. Vous vous souvenez de l'étape Modane-L'Alpe d'Huez, qui faisait une centaine de kilomètres, on avait monté le Galibier. Jérôme, tu t'en souviens, t'as dû la faire.
J'ai encore mal aux jambes ce jour-là, d'ailleurs. C'est jamais passé.
On avait enchaîné Galibier et monté de l'Alpe d'Huez. Et juste après le kilomètre zéro, on avait entendu dans Radio Tour: attaque du Dossard 1, Contador, attaque du Dossard 11, Andy Schleck, attaque du 21, Cadel Evans, attaque du 31, le maillot jaune Thomas Voeckler. C'était bon, pourquoi ça serait bien de
voir. Oui, on espère que ça va se passer comme ça.
Il n'y avait pas eu d'attaque de Thomas Voeckler ce jour-là.
Il avait suivi au début.
En tout cas,
on avait vu tous les favoris se flinguer dès le départ. Donc, si on peut avoir la même chose aujourd'hui.
Alors, c'est vrai, Fred, que depuis le départ de ce Tour de France, mis à part dans l'Alpe d'Huez, on a attendu la bagarre pour le classement général entre tous les principaux leaders. Ça s'est fait assez peu souvent depuis le départ de ce Tour de France. On espère aujourd'hui que ça va se faire parce que c'est sans doute la dernière chance de régler les choses pour le classement général aujourd'hui.
Oui, il en restera une d'étape pyrénéenne tout de même après-demain, notamment avec l'enchaînement Aspin-Tourmalet. On en reparlera. Demain, c'est quasiment journée de repos, hein, avec cette étape Trie-sur-Baïse-Pau. Ce sera l'étape traditionnelle dite des Landes, qui ne se courra pas uniquement dans le département des Landes. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est, comme disent les spécialistes de poker, un terme que l'on voit beaucoup passer, que l'on on entend beaucoup depuis ce matin, c'est all-in, tapis, pour ceux qui rêvent encore d'un podium ou d'une victoire au classement général.
Alors, on va aller sur la ligne de départ, la grille de départ, plus exactement, aujourd'hui, puisqu'on va vous expliquer comment ça se passe. Il y aura une grille, comme en Formule 1, avec en pole position le maillot jaune Geraint Thomas, un mètre derrière lui en quinconce Christopher Froome, Tom Dumoulin, puis Roglic, puis Vincent Bardet, qui sera en cinquième position. Romain Bardet, j'ai dit que Vincent Bardet, oui, parce que on est avec Vincent Lavenu qui va nous rejoindre dans un instant puisqu'il est à côté de Pierre-Yves Leroux sur la grille de départ. Salut Pierre-Yves.
Salut Christophe, tu fatigues un peu, hein, je vois, en troisième semaine. Hein, t'as longue fourche.
La journée de repos a été difficile.
Mais on se souvient d'un journaliste célèbre qui l'avait appelé Raymond Bardet il y a quelques années également. Vincent Lavenu, effectivement, qui est juste à côté de moi. Eh ben, je vais lui transmettre le téléphone, comme ça il va pouvoir vous expliquer un peu le programme de la matinée pour les coureurs. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit ça sera du vélo aujourd'hui, mais il va pouvoir vous détailler un petit peu plus le programme des coureurs qui sont actuellement dans le bus.
Très bien, Vincent Lavenu,
oui,
bonjour Vincent, manager de la formation Gdezert, la mondiale, le patron de Romain Bardet qui va donc tenter aujourd'hui sans doute de renverser la situation, on l'espère. C'est une étape très excitante en tous les cas pour les suiveurs, est-ce que pour les managers, est-ce que pour les coureurs c'est aussi très excitant Vincent ce qui va se passer dans un peu plus d'une heure maintenant?
Oui, on a le sentiment que ce format d'étape va donner quelque chose de très bien, que ça va permettre à la course de bouger. Voilà, on sent que ce matin, il y a une grande concentration de la part des coureurs, voire même de la tension à l'approche de cette épreuve qui va être très courte et très intense. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu le cas dans toutes les équipes et je suis persuadé que ça va donner quelque chose de sympa, notamment pour l'équipe et notamment pour Romain. Je pense que il va être capable de faire bouger les lignes, à quel niveau, on ne sait pas si ce sera pour gagner quelques places au général, ou si le leader va être en difficulté suite à cette journée, on n'en sait rien encore.
Vincent, c'est vrai que lorsqu'on regarde le profil de l'étape et depuis 2-3 jours, tout le monde le dit, ouais, on espère que la bagarre pour le classement général va se faire dès le départ de l'étape avec donc cette grille de départ qui va privilégier en quelque sorte les premiers du classement général. Les équipiers seront un petit peu plus loin derrière. Est-ce que vous pensez que ça va partir plein badin ou que la formation Sky va attendre de récupérer tous ces hommes qui partiront un peu plus loin derrière et se remettre en tête de peloton? Quel est le scénario que vous imaginez pour aujourd'hui?
Je pense pas que la grille de départ va changer fondamentalement les choses. Ce que je pense, c'est qu'il va y avoir des étages de fusée qui vont partir au premier, au deuxième, au troisième col, en fonction du niveau des coureurs. C'est-à-dire que les tout meilleurs du classement général ne pourront pas, on va dire, se jeter tout feu tout flamme dès le premier col. Par contre, ils risquent d'envoyer certains de leurs capitaines de route ou de leurs équipiers pour ensuite faire une manœuvre un petit peu plus lointaine. Donc, je vois bien des coureurs comme Dan Martin, comme Valverde, comme Kruiswijk, se lancer dans des opérations un petit peu difficiles dès le deuxième col pour justement faire bouger un petit peu les lignes, faire travailler Sky. Il y a aussi une descente qui est assez technique à l'approche du dernier col. Donc voilà, je pense que tous ces éléments-là, je pense que ça va monter crescendo. Voilà, au fur et à mesure des kilomètres, on risque de voir des attaques sur l'approche du premier col, mais pas forcément avec les leaders. Et ensuite, dès le deuxième col, on risque de voir des choses déjà très intéressantes, je pense.
Fred.
Oui, c'est Fred Adam. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Petite question sur l'état de santé des troupes ce matin. Est-ce que cette étape si particulière a, par exemple, perturbé le sommeil des coureurs?
Non, je ne crois pas. Non, simplement, c'est vrai que c'est une étape particulière dans le sens où, bon, justement, les coureurs ont pu se reposer un petit peu plus parce que on est parti plus tardivement de l'hôtel, sauf Romain puisqu'il a eu le droit à un petit contrôle antidopage à 7h30 le matin. Voilà, en ce qui le concerne, Romain a fait un petit peu de rouleau comme il aime bien le faire, justement pour s'échauffer, pour se préparer à cet effort. Et puis l'avant-course va être un petit peu différent des autres jours, c'est que il y aura un échauffement assez important qui sera réalisé juste avant le départ. Il y a une petite zone qui a été organisée par les organisateurs du tour pour que les coureurs puissent rouler. Il y aura aussi des home trainers, des rouleaux qui seront en place sur les tentes destinées donc à chaque équipe. Voilà, donc l'approche est un petit peu différente en sachant que cette course étant tellement courte qu'elle va partir quand même assez violemment et forcément les organisateurs doivent être prêts à cela.
Vincent, ça vous plaît ce genre de format? C'est pas révolutionnaire, mais en tous les cas, c'est nouveau, c'est innovant en matière de Tour de France. On n'a jamais eu ce genre de choses. Est-ce que c'est ce genre de choses qu'il faut multiplier pour espérer voir une plus grande bagarre, peut-être plus quotidienne finalement entre les grands leaders du Tour de France?
Oui, moi je trouve que c'est une très bonne chose de chercher à innover, de créer de nouveaux formats, de voir ce que ça donne. Peut-être que ce sera un très très bon résultat, peut-être que ça donnera pas ce qui est attendu par les organisateurs, mais je pense que c'est toujours bon d'amener des nouvelles choses et de voir un petit peu comment réagissent. On sait qu'aujourd'hui le sport a besoin d'avoir de l'action assez rapidement, donc plus les étapes sont longues et plus les coureurs ont tendance à se protéger en ne lançant des opérations que tardivement. Là c'est l'inverse, c'est une étape très très courte et donc je pense que ça devrait être prolifique pour permettre à tout le monde de bouger, à faire du spectacle. On verra, on fera le bilan ce soir, mais moi je suis très favorable à ce type de d'organisation.
Cyril Guimard, une question pour Vincent.
Oui, Vincent, est-ce qu'on peut imaginer sur les mouvements qui peuvent intervenir sur la première ascension, est-ce qu'on peut imaginer éventuellement que Pierre Latour participe à ces mouvements?
Alors on va pas tout vous dévoiler en direct, parce qu'on sait jamais si tout. Si, imaginez si la Sky écoute votre radio.
Bah, il paraît qu'ils ont les moyens d'écouter.
Voilà, donc toute notre tactique va être mise à mal. Non, mais on a bien prévu effectivement qu'il y ait des actions qui se déroulent dès le premier call et sur le deuxième call. Donc voilà, Pierre Latour fait partie du dispositif. Mathias Franck aussi, qui est un très bon grimpeur. Voilà, je pense que Mathias doit faire attention sur le premier call, de savoir ce qui se passe. Si ça bouge si, avec des groupes assez intéressants, je pense que Mathias devra y aller. Pierre, ce sera plutôt dans le deuxième. Et puis Romain, on va pas tout vous dévoiler, mais Romain a bien prévu. Il est extrêmement concentré ce matin et il a à cœur, il a envie de bien faire. Voilà, on sait que c'est un garçon qui a un naturel d'attaquant. Donc je pense que il y aura effectivement. J'ai entendu du bruit. Il y a Julien Lafilippe qui vient de passer, donc ça.
Ah oui. La nouvelle star française. Vincent, un dernier mot. C'est tout pour Romain ou le maillot blanc de Pierre Latour vous intéresse quand même? On rappelle qu'il est en tête au classement du meilleur jeune de ce Tour de France. Il est à la bagarre avec Guillaume Martin notamment. Est-ce que vous en faites un objectif ou vous restez focus sur le classement général pour Romain Bardet?
Bah, il y a une priorité. La priorité, ça reste le classement général de Romain, bien sûr. Mais c'est pas du tout incompatible que d'envisager de garder le maillot blanc. Pierre, effectivement, sait bien qu'il faut faire attention à Guillaume Martin, qui essaye de lui filer entre les doigts de temps à autre. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas aucune incompatibilité entre l'objectif d'accompagner Romain, de lui permettre de gagner des places au classement général, et d'envisager de garder ce maillot blanc.
Très bien, merci beaucoup Vincent Lavenu d'être venu au micro d'RMC avec Pierre-Yves Leroux. On vous souhaite une bonne course, on va se régaler,
merci.
On l'espère. Et on espère que Romain va tout faire péter cet après-midi. Merci,
ouais, merci
Vincent Lavenu, manager donc de la formation AG2R, la mondiale. Cyril, c'est vrai que tout le monde est un peu excité hein, de par cette étape, le format particulier, en espérant qu'on ne se fasse pas trop d'illusions et qu'il se passe vraiment des choses cet après-midi.
Bien, on espère effectivement, le format est très intéressant, c'est un champ de bataille, j'ai presque envie de dire idéal. Maintenant, je me méfie toujours des étapes où on annonce monts et merveilles, où on annonce un spectacle extraordinaire et où il y a une neutralisation souvent entre les meilleurs et qu'on risque peut-être de se terminer dans les 5 derniers kilomètres par une vraie bagarre, ce qu'on appelle le money time.
Alors, évidemment, ceux qui cadenassent la course, ce sont les coureurs de la formation Sky, avec deux garçons placés au général. Geraint Thomas, maillot jaune, Chris Froome en deuxième position, avec des garçons comme Bernal. Il y en a un paquet, hein, ils sont encore 7 au départ de cette étape. Jérôme, c'est eux qui ont les clés de l'étape où ils peuvent être débordés par les attaques et par les outsiders.
Bah, vu la disposition de la grille de départ, c'est ce qu'a voulu les organisateurs, essayer de mettre cette équipe Sky ou du moins les équipiers des favoris un peu en difficulté, qu'ils aient pas le temps de remonter et que la grosse bagarre se fasse d'entrée. Maintenant, ils en ont 3 qui vont être dans les premiers sas, donc à voir comment ils vont gérer, mais faudra attaquer de toute manière assez vite pour essayer de les mettre en difficulté et pas que les Kwiatkowski, les Pools et tout ça aient le temps de revenir. Quoi.
Fred, ils vont partir beaucoup plus loin, justement, les garçons dont vient de parler Jérôme Copé. Combien en termes de mètres ou en termes de secondes? Est-ce qu'on a une idée à peu près?
Alors, je ne sais pas si il sera procédé à un appel sur la ligne de départ. L'appel, c'est ce qui est traditionnellement fait, notamment lors des championnats. Vous savez, l'équipe du tenant du titre est appelée en première avec Dossard 1, un tel, Dossard 2, tel autre, ta 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 ta, et les coureurs viennent dans l'ordre de l'appel. Je suis pas sûr que dans les sas qui succéderont aux 20 premiers, on vous rappelle que les 20 premiers seront disposés telle une grille de départ de F1 ou de Grand Prix Moto, seront positionnés du 21e au 60e par exemple. Et je me demande si le 60e pourra pas venir se mêler au début du SAS à la place du 21e par exemple. Du coup, ça risque d'être un petit peu la foire d'empoigne. On a de toute façon tous hâte de voir comment cela se passe. C'est pas dit du tout que cette disposition, ce dispositif inédit de départ sur une course de vélo, on le rappelle aujourd'hui, c'est une grande première, pas dit que ça révolutionne quoi que ce soit et pas dit que ça, cela se passe au mieux.
C'est une expérience en quelque sorte.
Et les organisateurs du Tour ont tout fait pour la mettre en place et ont donc dû dealer, collaborer, coopérer avec l'Union Cycliste Internationale parce qu'on a modifié les règlements spécialement pour cette étape. C'est une dérogation. Peut-être est-ce le début d'une grande tradition sur des étapes au format court.
Ils sont pas toujours faciles à convaincre, les gens de l'UCI. Ils sont un peu conservateurs, quelque part, Cyril, non?
Oh, en règle générale, les gens des fédérations, je parle pas obligatoirement...
Des institutions, plus largement.
Oui. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que cette étape devienne une forme de laboratoire. Je pense qu'il eût été
on aurait pu expérimenter sur le Dauphiné,
plus judicieux,
par exemple,
tout à fait, de faire ce genre d'expérience, de la faire sur une épreuve de moindre importance, comme le critérium du Dauphiné, qui aurait pu permettre, parce que je pense que de toute façon, il y en a qui vont gruger, hein. Ça fait partie de la nature humaine.
On va voir, ouais. Le Dauphiné là, qui est également organisé par, par ASO, évidemment.
Et donc, là, je pense qu'il serait peut-être intéressant, mais bon, on va regarder, c'est que y a les images de l'hélicoptère, pour voir qui passe d'une ligne à l'autre. On sait par exemple que ce type de départ ressemble énormément au type de départ des épreuves de cyclocross par exemple et également au niveau du VTT. Et que parce que le départ est primordial. Et donc il y a effectivement une grille de départ. Mais il y en a qui arrivent toujours plus ou moins à sauter les différentes lignes. Donc ce serait quand même intéressant de voir s'il va pas y avoir quand même quelques tricheurs derrière.
Après ça arrive sur toutes les courses de vélo hein, de voir des coureurs qui ne sont pas prêts en temps et en heure, qui arrivent après tout le monde au départ et qui viennent par les côtés passer par-dessus les barrières. Ça arrive sur les courses FFC, les courses UCI, mais aussi sur les cyclos sportif, ça se voit à tous les niveaux.
On va écouter Thierry Gouvenot, qui est donc le directeur de l'épreuve, directeur sportif du Tour de France d'ASO, nous parler de cette étape et de ce qu'ils ont voulu faire avec ce format un peu différent.
Le but, c'est vraiment de casser les codes un peu et de voir de nouvelles tactiques se mettre en place de point de vue des équipes. On a un col inédit, le col du Porté, qui est vraiment extrêmement difficile. On peut le comparer à peu près en difficulté au Mont Ventoux. Ça fait 65 km, mais en termes de dénivelé, ce sera énorme. On veut que les coureurs soient innovants quelque part, prennent des risques et essayent de profiter du terrain sans penser à la fatigue de la distance, etc. On a voulu rajouter un petit piment, une petite cerise sur le gâteau en innovant sur le départ. Et donc, les coureurs vont partir au kilomètre zéro, c'est-à-dire à la sortie de la ville, dans l'ordre du classement général établi à l'issue de l'étape de la veille, un peu comme sur un système de Grand Prix de moto. Ce qui est intéressant, c'est que le kilomètre zéro se trouve au pied du col, c'est-à-dire au bout de 100 mètres, on est déjà dans une pente à 10%, et ça peut permettre toutes les initiatives.
Voilà, départ arrêté, départ en côte, ça va faire très mal aux jambes, hein, Jérôme. C'est pour ça que l'échauffement va être primordial, l'échauffement qui est d'ailleurs en train de commencer pour certains coureurs.
C'est ça, Vincent Lavenu en a parlé un peu, les rouleaux vont être de sortie. Ça va être en fait un échauffement comme un chrono, j'imagine, hein, parce qu'au contre-la-montre, faut être prêt dès le kilomètre zéro, dès le départ. Donc là, ça sera la même chose. Il faudra pas avoir un retard à l'allumage, parce que là, on pourrait le coûter cher, on pourrait le payer cher.
Pardon. Exactement, et certains s'inquiètent. Inquiète, hein, Fred, de poser la question à Vincent de savoir si certains avaient mal dormi cette nuit avant cette étape. Je pense qu'il y en a un qui doit pas être très 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 bien dans ses petits souliers ce matin. C'est Arnaud Démare, le leader de la formation Groupama FDJ, qui a vécu une très longue journée hier à l'arrière du peloton, complètement esselé, qui est arrivé avec plus d'une demi-heure de retard, qui est rentré dans les délais aujourd'hui.
41 minutes.
Hier. Voilà, 41. Les délais étaient fixés à 53 minutes, donc il est passé. Mais aujourd'hui, sur une étape plus courte, Fred, les délais forcément sont plus compliqués à respecter. Hein.
Alors ils seront en termes de pourcentage plus élevés. 25% du temps du premier sur la ligne pour calculer les délais. Typiquement, si l'étape faisait 4 heures, ce serait 1 heure. Là, si elle fait 3 heures, ouais, ce serait 40 heures.
Ils ont tablé sur entre 2 heures et 2 heures et demie. C'est à peu près entre 30 et 35 minutes de délai.
A priori, c'est confortable. Ouais. Notez que Vincent Lavenu parlait de ces rouleaux, ces home trainers qui vont être disposés dans les box des équipes, mis à la disposition des équipes. Cet espace également pas ouvert au public, mais ouvert à la vue du public, où les coureurs peuvent, à la façon des pistards, à l'intérieur même des vélodromes, continuer à tourner les jambes. Notez qu'au-delà de ce processus d'échauffement, beaucoup d'équipes, je crois, ce matin, sont allées rouler avant cette étape des 65 km. Pas seulement quelques minutes avant le départ, puisqu'on est encore à plus de 50 minutes du départ de cette étape inédite, mais ce matin, à la façon d'un contre-la-montre, il y a la course l'après-midi et le matin, ce qu'on peut appeler un réveil musculaire, le meilleur moyen pour mettre le corps prêt à s'échauffer ensuite à haute intensité. Ça ressemble à un chrono, hein, cette journée, Jérôme.
Exactement. Vincent Lavenue a dit que Romain Bardet avait fait de l'home trainer ce matin. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux des images de Sky qui ont été faire un bout du col du Portillon.
Groupama FDJ également.
Groupama FDJ aussi. Quand le départ est tard comme ça, la majorité des coureurs vont faire un tour le matin. Comme tu l'as dit, Fred, faut réveiller l'organisme et c'est très long de rester à l'hôtel de 9h du matin ou 7h comme Romain qui a été réveillé par un contrôle antidopage jusqu'au départ à 15h. Donc faut aller réveiller un petit coup l'organisme et ça, on rajoute pas de fatigue en faisant ça. Au contraire, on met en route le moteur, comme on dit, et ensuite on peut passer une bonne journée.
Les grands favoris de cette étape, ce sont donc les coureurs de la formation Sky qui sont donc allés rouler dans le col du Portillon ce matin. Ils sont actuellement dans la zone de départ. Pierre-Yves Leroux, tu te trouves, je crois, à côté justement du bus Sky, Pierre-Yves.
Exactement. Chris Froome vient de revenir. Il est d'abord parti signé. Il vient de remonter dans le bus. Il a croisé Geraint Thomas. Il n'a pas croisé son regard. Hein. Pour l'instant, ils ne se sont pas vus en dehors du bus. Ça veut dire que peut-être la guerre, entre guillemets, entre les deux hommes est déjà commencée. Mais ils sont allés rouler ce matin ensemble en compagnie d'Egan Bernal, qui lui aussi est juste à côté de nous et qui monte dans le bus à l'instant. Dans le col du Portillon, ils sont allés s'échauffer vers 11h, 11h30 en compagnie d'une voiture de l'équipe Sky. Et puis maintenant qu'ils reviennent au bus après la signature, ce qui sera le cas de Geraint Thomas également dans quelques instants. Ils vont pouvoir redescendre du bus dans quelques minutes pour s'installer sur tous les vélos qui sont devant nous actuellement, juste devant le bus, tous ces rouleaux, tous ces home trainers qui sont disposés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisqu'il manque évidemment celui de Gianni Moscon qui ne fait plus partie de l'équipe. Il y aura cette première phase d'échauffement pour remonter à nouveau les battements du cœur, être prêt pour ce départ tout à l'heure, et ensuite ils iront dans cette deuxième ce deuxième sas d'échauffement qui fait 900 mètres où ils pourront rouler ou s'installer sur d'autres home trainers. Ça sera le cas, par exemple, pour l'équipe AG2R. Il y aura deux home trainers qui seront réservés à Pierre Latour et à Romain Bardet.
Très bien, merci Pierre-Yves. Si tu as d'autres informations, évidemment, tu nous appelles. Il est 14h25, on va se quitter quelques instants. Pas de top course, Fred. Non, il faudra attendre une petite heure pour un top course. On vous rappelle que le départ de cette 17e étape sera donné à 15h15. Départ en ligne, départ arrêté au pied du premier col de la journée, le col de Peyresourde, et ensuite la montée vers Peyragudes. On espère qu'on va se régaler. Dans un instant, on sera avec Marc Magnot, le manager de la formation Groupama FDJ, le patron d'Arnaud Démare, qui se fait quelques souci avant le départ de cette étape. Il va tout nous dire, Marc, dans un instant.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Un peu plus de trois quarts d'heure maintenant du départ de cette 17e étape du Tour de France. Étape courte, étape nerveuse, étape pour la grande bagarre, on l'espère en tous les cas, entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan, plus exactement au-dessus de Saint-Lary-Soulan, au col du Porté, col inédit dans ce Tour de France. On a parlé donc de la bagarre pour la tête de course, et puis derrière, il y en a qui risquent de souffrir. Ce sera peut-être le cas, on n'espère pas, mais ce sera peut-être le cas d'Arnaud Démare, le sprinter de la Groupama FDJ, qui s'est accroché hier tout seul pendant de très longs kilomètres, de très longues heures. On est en ligne avec Marc Madiot, son patron, le manager de la formation Groupama. Bonjour Marc.
Bonjour.
Bon Marco, dans quel état se trouve Arnaud avant le départ de cette étape? Est-ce qu'il a bien dormi cette nuit ou est-ce qu'il s'inquiète un peu parce que les délais seront un peu moins longs que ceux d'hier par exemple?
Il est comme tous les coureurs, il y a une petite boule à l'estomac, comme aussi tous les dirigeants d'équipe. On est dans une certaine incertitude, mais pas plus que cela. Hein. Après, il y a des délais, ils sont faits pour être utilisés pour rentrer à temps. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est presque plus simple pour un garçon comme Arnaud aujourd'hui que ça ne l'était peut-être sur d'autres étapes. Donc l'idée, ça va être de vite se caler dans son tempo et dans son rythme. Et s'il arrive à faire cela assez facilement et assez rapidement, il devrait pouvoir rentrer dans les délais.
Ouais, on sait qu'il aime pas trop les départs en côte et les efforts violents dès le départ de l'étape. Est-ce que il va y avoir un échauffement justement mis en place, Marc, pour permettre de faire monter le cœur et de faire tourner les jambes?
Oui, pour lui comme pour les autres, hein, tout le monde va s'échauffer, un peu comme on le fait avant un chrono individuel ou par équipe. Il y a une montée en puissance de l'organisme pour pouvoir appréhender les premiers hectomètres ou kilomètres de l'étape.
Bon, alors le manager est un peu inquiet pour certains de ses coureurs, hein, pour, c'est le cas de tous les managers, mais comment l'amoureux de cyclisme réagit à ce nouveau format, Marc ?
Ben moi je suis curieux, je dis pourquoi pas, faut essayer. Après il sera toujours temps de se dire c'était bien ou c'était pas bien, mais faut pas partir avec des préjugés. Je pense qu'il faut tenter l'expérience. Alors le truc qui va être un peu particulier, je pense quand même, c'est que il y aura moins de prise de risque qu'on ne le suppose, parce que quand on est 5e ou 6e du général, c'est pas la même chose que si on est 12e ou 13e. Et le 5e ou le 6e du général, à mon avis, va pas prendre trop de risques, au moins dans la première partie de l'étape. Donc le feu de tout bois qu'on espère ou que l'on attend, à mon avis, risque de se produire peut-être dans la dernière ascension entre les favoris. Je vois plus la course que partir sur un schéma traditionnel avec des outsiders qui sortent. Et puis, de toute façon, pour moi, la Sky va se caler sur son propre rythme. Avec les computers, ils vont dire on met tant de watts à tel endroit, ils vont pas se préoccuper de ce qui se passe à côté d'eux. Et ils vont d'abord se regrouper, une fois qu'ils vont être regroupés, ils vont mettre leur tempo en place et ils iront chercher progressivement les gens qui auraient des aspirations belliqueuses.
Cyril Guimard a une question à poser à son ancien coureur qui est un peu aussi son fils spirituel. Hein.
Bon, c'est l'éternel. Bon. Oui, la question que je voulais poser, est-ce que bon, un jeune comme David Gaudu sur une étape courte comme ça, en règle générale, on est souvent un peu plus juteux que des coureurs de 35 ou 40 ans, voire de plus de 30 ans. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui une offensive de David et puis également de Rudy Mollard?
Alors, je pense que l'un et l'autre y pensent.
Ils y pensent, mais est-ce qu'il y a eu des
consignes? Ça, c'est les réponses à la Madio de temps en temps, Cyril. Il faut s'y faire. Hein.
Non, mais j'ai l'habitude. Mais est-ce que ça a été évoqué par rapport à la stratégie à mettre en place aujourd'hui? Parce que d'un côté, alors, effectivement, il y a Arnaud qui, lui, va partir sur la dernière ligne, j'ai vérifié, et qui, de toute façon, va se mettre à son train, non pas celui de la Sky, mais le sien. Et c'est vrai que ça me paraît moins périlleux aujourd'hui que dans l'étape d'hier où il y avait 130 km de plat, mais on attend un petit quelque chose quand même de, et je pense que Marc Madiot, le manager, attend quelque chose aussi.
Oui, mais j'attends sans impatience. Il y a quartier libre pour les deux coureurs que tu as cités, et ils vont faire le meilleur qu'ils vont pouvoir donner. Après, oui, évidemment, hein, David Gaudu bien en jambes, c'est un terrain qui l'inspire, ça c'est une évidence.
Fred.
Oui, Marc, je m'adresse là au Marc Madiot, non pas manager de l'équipe Groupama FDJ, mais au patron de la Ligue du cyclisme professionnel. Est-ce que ces départs en gris façon F1, façon MotoGP, c'est l'avenir du vélo?
Bon, la situation de départ en gris, il fallait bien faire quelque chose au départ, mais c'est pas ça qui va déterminer de manière importante le déroulé de l'étape. Hein. C'est de la mise en, enfin j'ai envie de dire, c'est presque de la mise en scène. De toute façon, ceux qui vont avoir vraiment envie d'être devant et qui auront les jambes pour être à l'avant, ils seront très rapidement. Hein. En 500 mètres, ce sera fait. Hein. Donc c'est bien pour les images télévision, mais ce qui va compter, non. Moi, ce qui m'intéresse plus dans une étape comme aujourd'hui, c'est de voir l'attitude des gens qui sont entre 4, 5, 10e du général et la prise de risque qu'il va y avoir. Je pars d'un côté pessimiste aujourd'hui en me disant que ces gens-là vont attendre. On n'est pas sur le Dauphiné ou sur un Paris-Nice où les gens peuvent prendre des risques. Quand on est 5e sur le Dauphiné, qu'on termine 10e à la sortie, si on a pris des risques, c'est pas très grave. Mais sur un Tour de France, quand on est 5e, on n'a pas envie de terminer 10e. Donc c'est plus là qu'on risque d'avoir une petite déception. Maintenant, le schéma de l'étape, il faut le tenter, il faut l'essayer, et puis on verra ce que ça donne ce soir. Moi, je vais regarder tout ça avec beaucoup de curiosité.
Une dernière question avant de relâcher Marc, hein, qui doit faire la route pour aller au sommet, de Georges Quirino.
Marc, est-ce qu'il y a une forme de résignation sur le spectacle que peut proposer la lutte pour le classement général, quand vous nous parlez là justement des Sky qui vont très rapidement mettre le computer, j'ai envie de dire?
Bah, ils ont des grands coureurs, hein. vous l'avez souvent dit et répété, les uns et les autres de cette équipe pourraient être leaders dans n'importe quel autre groupe sportif. Donc à partir de là, c'est des garçons qui sont professionnels, bien payés pour remplir un rôle, et ils vont bien le remplir. Donc la concurrence en face le sait. Ceux qui peuvent éventuellement tenter quelque chose, c'est des gens comme Valverde, mais même si Valverde il sort, il est déjà loin au général, donc vous voyez, il y aura pas d'inquiétude particulière de la part de la Sky. Je soupçonne même la Sky de vouloir départager ces deux leaders sur la dernière ascension en leur donnant quartier libre pour s'exprimer et puis figer le classement derrière.
Très bien, merci beaucoup Marc Madio. Merci Marc, bonne étape et on espère évidemment que Arnaud va s'accrocher et que David va nous réaliser de formidables choses tout à l'heure dans l'ascension et notamment la dernière ascension, le col du Porté. Merci Marc. On va justement aller au sommet de cette étape, là où sera jugée l'arrivée tout à l'heure, donc sur les hauteurs de Saint-Lary-Soulan, le col du Porté où on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Yann Pécheral, qui se trouve là-bas sur les hauteurs de ce qui constituera d'ailleurs le toit du Tour de France 2018. Bonjour Yann.
Bonjour à tous. 2215 mètres effectivement pour ce sommet aujourd'hui, cette arrivée au col du Porté. Je peux vous dire que ça ressemble à tout sauf à une arrivée du Tour. C'est vraiment très impressionnant en termes de logistique. On a quelques camions et il faut bien se rendre compte que c'est un tout petit espace, un tout petit chemin pour arriver jusqu'à cette arrivée. Vous allez découvrir ça tout à l'heure avec les images. Hier, Christian Prudhomme nous disait que cette arrivée en haut du col du Porté, c'était un petit tourmalet, un nouveau tourmalet. Ben, c'est vrai que selon ce que vont en faire les coureurs, ça pourrait être une arrivée de légende cet après-midi parce que tous les ingrédients sont réunis, ça monte énormément. C'est très très difficile, très compliqué. Il y a un peu de monde quand même. Il y a beaucoup de courageux parce que pour venir en haut du col du Porté, il faut prendre plusieurs téléphériques, deux téléphériques. C'est assez long. On a mis une heure et demie à peu près pour partir de l'endroit où nous étions avec vous au camion tout à l'heure pour arriver jusqu'en haut de ce col du Porté. Il y a du vent pour le moment. Il y a des nuages qui sont très menaçants. Et je pense que d'ici une dizaine de minutes, on va commencer à mettre les vestes. Parce que voilà, la chaleur qui est la vôtre certainement en bas dans la vallée, ben c'est en train déjà, alors que la course n'est pas encore partie, ben il commence déjà à faire un petit peu frais. Et dès que les nuages arrivent et cachent le soleil, ben et on va pas tarder à mettre les jeans et les blousons parce que ça va se rafraîchir dans pas longtemps.
Alors Cyril a une question à te poser, Yann, je crois.
Yann Pécheral qui prend une veste, les temps changent quand même.
Ah oui, hein. Oui, c'est bien la première fois sur les routes de ce Tour 2018. Bon, je ne sais pas qu'en 2017 ou 2016, ça a déjà été le cas. Cyril.
Oui, est-ce que tu peux nous dire la puissance du vent et puis la direction du vent? Parce que ça peut être important sur le déroulement des quatre derniers kilomètres.
Pour le moment, il y a un tout petit peu de vent, Cyril. On va voir si ça va se lever. On nous annonce un peu plus de vent dans l'après-midi et quelques orages possibles en fin d'après-midi. Pour le moment, on n'en est pas là, mais avec la force du vent actuelle, honnêtement, je pense pas que ça gêne les coureurs. Mais évidemment, si ça venait à se lever un petit peu plus, ça serait plus gênant. Mais pour le moment, il y a rien de très inquiétant en ce qui concerne le vent.
Oui, mais il est de face, de côté.
Sors ta boussole, Yann.
Il est de face de côté. À l'arrivée, moi je suis exactement sous le panneau de l'arrivée. Et sous le panneau de l'arrivée, il est vent dans le dos.
D'accord. Voilà, c'est important parce qu'avec un vent de face, ça bloque un peu la course. Il est dans le dos, ça l'ouvre.
Maintenant, je te cache pas Cyril, tu vas découvrir ça. Il y a des lacets. Hein. Et effectivement, ça tourne énormément à l'arrivée. Et les deux derniers kilomètres sont complètement balisés. Il y a des barrières partout. C'est vrai que c'est très étroit. C'est aussi pour ça qu'il y a pas de voiture qui est montée. Il y a très peu de camions qui sont à l'arrivée. Et c'est balisé sur les deux derniers kilomètres. Et on a tout de suite compris quand on est monté avec Jeff Paturo dans le téléphérique. On a compris pourquoi il y avait une toute petite zone technique en haut et aucune voiture. Et Jeff Paturo, que je vais aller voir d'ailleurs parce qu'il a pris le téléphérique. Il est pas rassuré du tout. Il a encore un petit peu tout blanc. On va lui mettre les pieds en l'air.
Décidément, on n'a que des courageux dans cette équipe, entre ceux qui savent pas nager et ceux qui ont le vertige. On est bien barré dans l'équipe RMC Sport. Heureusement, il y en a qui roupillent et qui reforment leur santé. Merci Yann, à tout à l'heure, évidemment, pour les premières réactions à l'issue de cette étape. Oui, pour tout vous dire, nous ne sommes pas sur la ligne d'arrivée. Aujourd'hui, à la différence des autres jours, Fred, nous sommes à Saint-Lary-Soulan parce que, comme le disait Yann, les conditions et l'espace là-bas ne permettaient pas à ce qu'on appelle la zone technique, c'est-à-dire tous les camions technique du Tour de France de monter au sommet donc de cette 17e étape du Tour de France. Merci Yann, on te retrouve tout à l'heure. Ce col du Porté, Fred, C'est quand même incroyable, mais on arrive encore en 2018 à trouver des cols inédits sur la route du Tour de France. Jamais le peloton n'est arrivé au sommet de ce col du Portet, je crois, parce que c'est un cul-de-sac. Hein.
Et pour la simple et bonne raison que c'était un chemin qui n'était pas bitumé. Le goudron a été mis il y a quelques semaines seulement pour les besoins, évidemment, de cette arrivée du Tour. C'est vrai que les organisateurs du Tour doivent désormais aller chercher, peut-être pas des chemins de chèvre, mais quasiment des pistes au moins. Et c'est exactement ce qu'était il y a encore quelques semaines ce col du Portet, le col du Portet sur les hauteurs de Saint-Lary-Soulan. Alors Saint-Lary-Soulan, c'est souvent le théâtre d'arrivée du Tour de France, hein, notamment avec ses arrivées au Plat d'Adet, là-haut, la station de ski sur les hauteurs de Saint-Lary, mais jamais effectivement le col du Portet n'avait été exploré. 2215 mètres, comme l'a souligné Yann Pécheral il y a quelques instants, cela veut dire simplement que cet après-midi, les coureurs arriveront au sommet du Tour 2018, le fameux souvenir Henri Desgranges qui est souvent décerné au col du Tourmalet, le Tourmalet qui est à plus de 2100 mètres. Cette fois, on fait encore plus haut avec ce col du Portet, c'est pas moins de 15 km d'ascension, 16 km même à 8,7%. Ça ne s'aplanit jamais, ce col du Portet. Alors oui, il y a des lacets, mais non, il n'y a pas de replat, et ce sera bien la difficulté. En tout cas, les avis sont unanimes. Tous les coureurs, et Geraint Thomas, le maillot jaune en premier, tous les coureurs qui ont reconnu cette ascension, bitumée ou non d'ailleurs, sont du même avis. C'est le col le plus dur du Tour 2018. Et le fait qu'il arrive à la fin d'une étape si nerveuse, au format si ramassé,
et en troisième semaine,
absolument, devrait provoquer des écarts, sinon abyssaux, au moins importants et décisifs pour le classement général. C'est bien que le Tour de France innove chaque année. Cela maintient une certaine flamme, parce que c'est vrai qu'après, c'est le quantième Tour de France, le 105e, très exactement, ce Tour 2018. Forcément, on commence à faire le tour de la question en montagne, et on remercie les organisateurs de nous apporter des innovations chaque année.
Et c'est vrai que Thierry Gouvenou passe son année à rechercher des coins encore inédits sur les routes de France, et ça a été le cas donc avec ce col du Portet. D'ailleurs, dans les autres grands tours, Jérôme, Cyril, eh bien les organisateurs arrivent à dénicher aussi des petites perles. On se souvient de, par exemple, du col de Langliru en Espagne, qui est considéré comme un des plus durs au monde. C'est un chemin de chèvre là aussi, et qui désormais fait partie de la grande histoire de la Vuelta.
C'est ça. Alors pour le Giro, je peux pas en parler parce que j'ai jamais fait, mais la Vuelta, c'est un peu les spécialistes de ça, hein. Donc t'as parlé de Langliru, mais il y en a d'autres. C'est assez régulièrement qui bitument la fin d'un chemin ou quoi, pour vraiment qu'on arrive à son sommet et qu'on fasse les parties les plus dures. Donc on sait que quand on part autour d'Espagne, on part les mécanos mettent dans le bus les plateaux compacts, ce qu'on appelle ça. C'est vraiment des tout petits braquets, limite des braquets de VTT, parce qu'on sait qu'on va s'en servir, et ils adorent faire ça sur la Vuelta. Et aujourd'hui, alors c'est pas aussi extrême qu'à la Vuelta, mais en tout cas on s'en rapproche, et en Espagne il y a souvent beaucoup de spectacles, donc on espère qu'aujourd'hui ça sera pareil.
16 km à 8,7% de moyenne. On compare ce col un peu au Mont Ventoux, Jérôme. Je sais pas si tu as reconnu ce col. Non, je pense pas que tu l'aies reconnu.
Non.
Mais c'est vrai que
j'arrive plus à
le Ventoux est déjà considéré comme un des cols les plus durs, donc on a réussi à trouver un Ventoux dans les Pyrénées.
Thierry Gouvenou parle de Ventoux, Christian Prudhomme de Petit Tourmalet, donc c'est pour donner un peu une idée de la difficulté du col. Donc il doit être vraiment très dur. Après, moi j'aimerais quand même saluer les organisateurs, parce que j'ai la chance de faire le tour avec vous de l'autre côté de la barrière, et quand on est coureur, on se rend vraiment pas compte de l'organisation pour faire des arrivées spectaculaires comme ça, et c'est assez incroyable. Là, comme l'a dit Yann Pécheral tout à l'heure, il y a très peu de véhicules en haut, mais voilà, la diffusion sera parfaite, les coureurs pourront redescendre assez rapidement, et ça c'est vraiment ce qui m'épate de la part d'ASO.
Avec un garçon qui s'appelle Henri Thérault, qui est responsable technique chez Orange et qui fait un travail incroyable, travail considérable, il dort 3 heures par nuit depuis quelques jours pour nous permettre d'avoir les meilleures conditions et nous permettre de retransmettre cette étape. Il faut aussi saluer le travail des hommes de l'ombre, et il en fait partie, et c'est l'un des personnages emblématiques de ce Tour de France. 14h43, on va se retrouver dans un instant pour continuer d'évoquer cette 17e étape dont le départ, je vous le rappelle, sera donné dans une petite demi-heure maintenant à 15h15 pour 65 km de bagarre pour le classement général, avec sans doute le classement général et le maillot jaune qui sera définitivement établi ce soir à 4 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
À moins d'une demi-heure maintenant du départ de cette 17e étape du Tour de France. On vous le répète depuis 14h, une étape courte, une étape dense, une étape qui devrait être rapide et qui devrait, on l'espère, nous permettre d'assister à une grande bagarre pour le classement général. Mais avec la formation Sky, on n'est jamais sûr de rien. On a été tellement déçus ces dernières semaines et ces dernières années qu'on va pas non plus s'emballer et vous dire qu'il va se passer des choses fantastiques. On verra, mais on espère, on est excité à l'idée d'assister à cette étape et à ce nouveau format avec, on vous le rappelle, un départ arrêté, un départ en ligne, en grillé, comme cela se passe sur les Grands Prix de Formule 1 ou de MotoGP. 14h48, on va rechercher non pas Dédé, mais Monsieur Dédé, s'il vous plaît.
Il est où ce Dédé?
Oui, Monsieur Dédé, je dis parce qu'aujourd'hui, Monsieur André Bancala de l'Assemblée des départements Sir. De France, Sir, ouais, Sir, il y a Dédé. Sir David Braceford, voilà. Et il y a Sir André Bancala qui a donc reçu la médaille d'honneur du Tour de France décernée pour bons et loyaux services et surtout très longs services, Monsieur Bancala, qui dispute oui. son 20e Tour de France. Oh là là, il y a 20 ans, il était maigre, il ressemblait à Fred Adam. Ça a bien changé depuis.
T'es bien plus joli maintenant, alors.
Merci, voilà. Au moins quelqu'un qui reconnaît la valeur au nombre des années. Mais ouais, j'ai reçu ça ce matin. C'était très émouvant. Et voilà, mais ça changera rien. Je continuerai toujours à nettoyer mes routes avec Gros Léon. Ça ne changera pas et je vais même continuer aujourd'hui car j'ai l'impression que ça va être un peu olé olé sur la fin d'étape.
Bon. Alors Cyril, on appuie sur le bouton parce que ça, même 20 ans après ou 40 ans après, il n'y arrivera toujours pas. Cyril.
Oui, je disais plein de modestie ce Dédé.
Oui,
hein.
Dédé, 20 ans, il a commencé, il était tout jeune. Hein, on rappelle que donc il y a une médaille qui est attribuée aux 20 ans et ensuite, Cyril, quand on en a 40, il y a une autre médaille.
Non, après, j'ai plus jamais rien reçu.
T'as plus rien.
Je crois que c'est 30 après.
Même Madame Guimard n'est plus invitée depuis. Alors, vous voyez, ça sert à rien d'avoir des médailles, hein, monsieur Bancala.
Non, ça sert à rien, absolument.
Mais on l'appelle pas la médaille de la fidélité?
C'est ça, la médaille de la fidélité, c'est ça, voilà. C'est ce qu'on appelle la médaille de la fidélité.
Oui, ça nous a un peu surpris, nous, mais bon, c'est comme ça.
Il y en a certains qui vont pas l'obtenir ici, dans l'équipe RMC, la médaille de la fidélité. André, étape particulière. Oui. Alors, Fred disait tout à l'heure que le col du porté a été bitumé ces dernières semaines, c'est vrai?
Oui, c'est vrai. Il a été, alors pas l'intégralité de la montée, mais les derniers kilomètres à partir d'Espiaube, donc sur vraiment la partie nouvelle, celle qui sera empruntée cette fois-ci pour la première fois par le Tour. Le revêtement a été refait parce que de toute façon, c'était peu ou pas praticable. Ça a été refait. C'est un revêtement qui est, comme on l'appelle nous, assez ouvert. C'est-à-dire que le granulat, ce qui compose la surface de roulement, n'est pas très resserré et ça rejette un peu de gravillon. Ça a été balayé par le département des Hautes-Pyrénées pas plus tard que ce matin. Pour la dernière fois, il y a 3-4 heures, ils ont passé encore une balayeuse pour rejeter encore du gravillon. Alors, on est en montée, donc ça n'a pas l'aspect dangereux, évidemment, d'une descente. Mais en revanche, on pourrait avoir des surprises en termes de crevaisons. On pourrait avoir des crevaisons ici ou là, si d'aventure, quelques graviers restaient coincés, prisonniers, n'avaient pas pu être balayés. Ça va peut-être mettre un peu de piquant sur le final. Ça, c'est pour la partie course. Et puis, je donnerai quand même un conseil de sécurité pour l'après-course. Car en montant, les voitures de suiveurs, même s'il y en a très très peu, risquent de décoller un peu de gravier. Et on sait que les coureurs, une fois qu'ils auront franchi la ligne, vont redescendre pleine balle pour retrouver leur car, leur bus. Et attention dans la descente de ne pas aller au tapis, que ça soit évidemment les coureurs qui redescendent à vélo ou les motards lors de l'évacuation. Ça, c'est pour Marco.
Et oui, Marco va devoir faire attention aujourd'hui. Il va pas devoir descendre plein badin comme il le fait habituellement. Un dernier mot. Il y a aussi des descentes, forcément. Il y a des montées, il y a des descentes aujourd'hui. On est passé tout à l'heure dans la descente du col de Val-Louron-Azé, dans le petit village de Azé. Là, c'est assez sinueux, c'est assez dangereux quand même. Hein. On a vu d'ailleurs certains de tes hommes placer des bottes de paille ou des protections parce qu'on est dans le village et on va assez vite dans ce village.
Oui, ce sont des villages, il y a Azette, il y a Saillant, il y a quelques petits villages qu'on va traverser. Évidemment, ça fait partie du charme des Pyrénées avec des routes qui sont étroites, sinueuses, c'est très bosselé. Il y a quelques épingles, ce sont des villages dont les maires n'ont pas énormément de temps et qui laissent généralement les routes qui sont des voies communales à cet endroit-là, un peu dans leur jus, et on peut en effet se retrouver avec des véritables ruptures de revêtements, des revêtements qui sont vraiment à certains endroits assez fatigués, assez dégradés, d'autant plus que l'hiver il fait un peu froid et que ça gèle. Et c'est ce que tu disais, les services du département ont placé de la botte de paille pour éviter des chutes éventuelles, et nos équipes vont y passer, et s'il y avait un coup de balai, le trop gros Léon, comme on l'appelle désormais, va passer un coup de balai s'il le faut ici ou là, mais ça devrait normalement passer relativement sans encombre, parce que l'ensemble du tracé a été vérifié, puisque l'étape est très courte, et on sait que c'est une étape très particulière. L'ensemble du tracé a été vérifié par les services du département, et les balayeuses sont entrées en action depuis plusieurs jours pour vraiment essayer de nettoyer au maximum.
Très bien, merci André, merci monsieur André, s'il vous plaît, et tu nous montreras ta médaille tout à l'heure. J'espère que tu vas payer l'apéro, dis donc, pour une belle médaille comme ça.
C'est intérêt. Évident, j'ai une glacière qui est remplie.
Bon, mais c'est parfait, très bien. Merci monsieur Dédé, à tout à l'heure. 14h53, on repart sur la grille de départ de ce Grand Prix du Tour de France avec Pierre-Yves Leroux qui se trouve toujours à Bagnères-de-Luchon, à maintenant 20 minutes du départ de cette 17e étape. Tu es sur la grille de départ d'ailleurs, Pierre-Yves.
Exactement, je suis dans le premier sas où la pression commence à monter. Les coureurs ne sont pas encore arrivés, ils sont sur les rouleaux ou sur la zone d'échauffement qu'on aperçoit au bout de cette ligne droite avec un certain nombre de tentes où il y a quelques home trainers qui sont installés comme je vous l'expliquais tout à l'heure, notamment pour Pierre Latour et Romain Bardet du côté d'AG2R. Et en fait sur cette grille il y a donc les emplacements, les dossards ont été collés devant les emplacements. On peut voir celui de Pierre Latour donc qui se situe juste sur la première ligne derrière les 10 premières positions, et Pierre Latour, si on regarde bien, il aura juste 2 coureurs à remonter pour se retrouver à côté de son leader, c'est-à-dire Quintana et Dan Martin sur sa droite, et on remonte comme ça la grille. Fugel, Sanguela, Kreuzvik, Landa, je remonte en même temps que je vous parle, Romain Bardet donc à droite, Roglic à gauche, Dumoulin quasiment au centre, Christopher Froome, et le premier, ça sera Geraint Thomas à s'envoler tout à l'heure. Pourquoi pas s'envoler vers une victoire d'étape. En tout cas, la lutte promet d'être âpre, et le spectacle au départ risque d'être aussi assez original, mais il y a vraiment plus de tension et de pression que pour un départ habituel. On l'a vraiment ressenti aujourd'hui auprès des bus.
Et il va y avoir une belle panique au départ de cette étape. Départ arrêté, toutes les motos seront juste devant le peloton. À mon avis, on va vous faire avancer rapidement, Marco et Pierre-Yves, pour éviter un bouchon dans la première ascension de la journée, qui sera donc la montée du col de Peyresourde, qui se prolongera sur la montée de Péragude. Merci Pierre-Yves, on te retrouve dans quelques minutes pour le départ de cette étape, Fred. C'est donc un moment important pour le Tour de France 2018. On rappelle que les écarts ne sont pas encore définitifs au classement général, même si Geraint Thomas et Chris Froome ont une belle avance, mais tout peut encore se produire aujourd'hui.
Oui, alors Geraint Thomas semble potentiellement à l'abri de quoi que ce soit, parce qu'il a prouvé, non pas par l'avance qu'il possède, on rappelle qu'il est leader du classement général pour 1 minute 39 sur son coéquipier et compatriote Christopher Froome. Dumoulin est à 1:50, il y a quand même une petite marge pour Geraint Thomas, mais aujourd'hui, on pourrait non pas compter les écarts en secondes, mais bel et bien en minutes. C'est le maillot jaune lui-même qui le dit, qui doit pas être fier quand même aujourd'hui. J'aimerais savoir, et on en parlera avec Pierre-Yves juste après les infos, si les visages sont parlants aujourd'hui, si les masques sont fermés, c'est quand même très vraisemblable. Tout le monde n'a pas dû bien dormir cette nuit.
Très bien. Les paris RMC à un quart d'heure maintenant du départ de cette 17e étape.
PMU.fr, Paris sportif, Paris physique, poker.
Benjamin Ramager, salut Benji.
Mais non, c'est moi Christophe.
Ah, c'est Benoît Boutron.
Oui, comment ça va?
Ça y est,
étape de montagne, je suis là. Attends, tu rigoles
ou
quoi?
Oui. Le roi de l'étape du Tour, on le rappelle.
Bon, le roi, je sais pas, mais.
Bon, alors mon petit Benoît, quels sont les principaux favoris? Quelles sont les cotes des favoris?
Le favori, c'est pas le maillot jaune, hein. Geraint Thomas,
c'est son dauphin.
Il est coté à 4,90. Effectivement, c'est son dauphin. Christopher Froome à 2,70. Après Dumoulin à 11, Landa à 12, Quintana à 12 également, Bardet à 14. Messieurs, faut jouer Chris Froome a priori pour gagner de l'argent aujourd'hui.
Bah, c'est ce qu'on a joué avec Cyril et avec Jérôme. Hein.
Ouais. On est Cyril, tous les trois d'accord. Il a mis Roglic.
Cyril a mis Primoz Roglic.
Roglic.
Ouais, exactement. Oui. 14, hein, Roglic.
Roglic ou Roglic? Je ne sais pas, l'un des deux.
Ouais. Roglic. Plutôt Roglic avec un G. Tu restes sur ce pronostic, Cyril?
Oui, oui, je reste totalement acquis à ce jeune coureur.
Très bien. Jérôme, tu as donc donné Christopher Froome.
Je change pas d'avis.
Georges n'a pas donné son pronostic, il va le donner.
Christopher Froome.
Christopher Froome. Frédéric Adam va donner son pronostic.
Pierre Roland, avec cette succession de cols aujourd'hui, pourquoi pas. Si on s'enterre derrière, il y a moyen de prendre du champ très rapidement.
Tu crois que ça va s'enterrer derrière, toi?
On verra.
Il est là pour nous casser le moral, en fait, ce Frédéric Adam.
Pierre Roland, c'est 150. Hein.
Et ouais, on préférait, et personnellement, je préférais que tu aies raison. Que ce soit Pierre Roland qui s'impose
oui,
l'Orléanais, Christopher Froome, mais voilà, l'Orléanais qui aime bien les cimes, on verra ça tout à l'heure. Et moi j'ai aussi donné Christopher Froome. Qu'ont donné Bourgui et Lucho?
Écoute, ils ont donné Chris Froome également, Lucho et Thierry. Non, Thierry a joué Geraint Thomas à 5.
Eh oui. Eh ouais, faut pas l'oublier quand même.
Rappelons que c'est la dernière arrivée au sommet. Hein, donc
bien sûr. Demain ce sera une étape de plat, et après-demain ce sera un sommet.
Au pied de la descente.
Au pied de la descente. Merci Benoît.
Merci à vous, à tout à l'heure.
Récapituler tout ça aux alentours de 19h45.
PMU.fr, numéro 1 du pari en termes d'enjeu en 2017. Voir conditions sur PMU.fr. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et dans un instant, juste après les infos de 15h, les dernières minutes avant le départ de cette 17e étape, le warm-up. Pour ce départ de Formule 1 de MotoGP, c'est au choix. Grille de départ donc pour les coureurs du Tour de France. 17e étape qui sent la dynamite. À tout à l'heure.
RMC jusqu'à 18h. Intégral Tour.